L'essentiel, formula Lupin, est de savoir si nous coulerons avant ou après l'arrivée des champions de la justice. Tout est là. Car pour la question du naufrage, elle ne se pose même plus. Maître, c'est l'heure solennelle du testament. Je lègue toute ma fortune à Herlock Sholmès, citoyen anglais, à charge pour lui... Oh, mais mon Dieu, qu'ils avancent vite, les champions de la justice. Ah, les braves gens, ils font plaisir à voir. Quelle précision dans le coup de rame. Tiens, mais c'est vous, brigadier Folenfant. Bravo, l'idée du navire de guerre est excellente. Je vous recommanderai à vos supérieurs, brigadier Folenfant. Est-ce la médaille que vous souhaitez? Entendu, c'est chose faite. Et votre camarade Dieuzy, où est-il donc? Sur la rive gauche, n'est-ce pas? Au milieu d'une centaine d'indigènes. Ah, de sorte que si j'échappe au naufrage, je suis recueilli à gauche par Dieuzy et ses indigènes, ou bien à droite par Ganimard et les populations de Neuilly. Fâcheux dilemme!
Il y eut un remous. L'embarcation vira sur elle-même, et Sholmès dut s'accrocher à l'anneau des avirons.
Maître, dit Lupin, je vous supplie d'ôter votre veste. Vous serez plus à l'aise pour nager. Non? Vous refusez? Alors je remets la mienne. Il enfila sa veste, la boutonna hermétiquement comme celle de Sholmès, et soupira.
Oh, quel rude homme vous faites!
Et qu'il est dommage que vous vous entêtiez dans une affaire où vous donnez, certes, la mesure de vos moyens, mais si vainement. Vrai, vous gâchez votre beau génie.
Monsieur Lupin, prononça Sholmès, sortant enfin de son mutisme, vous parlez beaucoup trop, et vous péchez souvent par excès de confiance et par légèreté.
Le reproche est sévère.
C'est ainsi que, sans le savoir, vous m'avez fourni, il y a un instant, le renseignement que je cherchais.
Comment ?
Vous cherchiez un renseignement et vous ne me le disiez pas ?
Je n'ai besoin de personne. D'ici 3 heures, je donnerai le mot de l'énigme à Monsieur et Madame d'Imbleval. Voilà l'unique réponse.
Il n'acheva pas sa phrase. La barque avait sombré d'un coup, les entraînant tous deux. Elle émergea aussitôt, retournée la coque en l'air. Il y eut de grands cris sur les deux rives, puis un silence anxieux. Et soudain, de nouvelles exclamations. Un des naufragés avait reparu. C'était Herlock Sholmès. Excellent nageur, il se dirigea à large brassée vers le canot de Folenfant.
« Hardi, monsieur Sholmès !» hurla le brigadier. « Nous y sommes. Et faiblissez pas, on s'occupera de lui après. » « Nous le tenons! Allez! Un petit effort, monsieur Sholmès! Et prenez la corde !»
L'anglais saisit une corde qu'on lui tendait. Mais pendant qu'il se hissait à bord, une voix derrière lui l'interpella.
« Le mot de l'énigme, mon cher maître. Parbleu, oui, vous l'aurez. Je m'étonne même que vous ne l'ayez pas déjà. »
Et après, à quoi cela vous servira-t-il?
C'est justement alors que la bataille sera perdue pour vous.
À cheval sur la coque dont il venait d'escalader les parois tout en pérorant, confortablement installé maintenant, Arsène Lupin poursuivait son discours avec des gestes solennels et comme s'il espérait convaincre son interlocuteur.
Comprenez-le bien, mon cher maître. Il n'y a rien à faire, absolument rien. Vous vous trouvez dans la situation déplorable d'un monsieur...
Folenfant l'ajusta.
Rendez-vous, Lupin!
Vous êtes un malotru, brigadier Folenfant. Vous m'avez coupé au milieu d'une phrase. Je disais donc...
Rendez-vous, Lupin!
Mais sacre bleu, brigadier Folenfant! On ne se rend que si l'on est en danger.
Or, vous n'avez pas la prétention de croire que je cours le moindre danger.
Pour la dernière fois, Lupin, je vous somme de vous rendre!
Brigadier Folenfant... Vous n'avez nullement l'intention de me tuer, tout au plus de me blesser, tellement vous avez peur que je m'échappe. Et si par hasard, la blessure était mortelle? Non mais, pensez à vos remords malheureux, à votre vieillesse empoisonnée.
Le coup partit. Lupin chancela, se cramponna un instant à l'épave, puis lâcha prise et disparut. Il était exactement 3 heures lorsque ces événements se produisirent. À 6 heures précises, ainsi qu'il l'avait annoncé, Herlock Sholmès, vêtu d'un pantalon trop court et d'un veston trop étroit, qu'il avait emprunté à un aubergiste de Neuilly, coiffé d'une casquette et paré d'une chemise de flanelle à cordelière de soie, entra dans le boudoir de la rue Murillo, après avoir fait prévenir monsieur et madame d'Imbleval qu'il leur demandait un entretien. Ils le trouvèrent qui se promenait de long en large. Et il leur parut si comique dans sa tenue bizarre qu'ils durent réprimer une forte envie de rire. L'air pensif, le dos voûté, il marchait comme un automate, de la fenêtre à la porte et de la porte à la fenêtre, faisant chaque fois le même nombre de pas et pivotant chaque fois dans le même sens. Il s'arrêta, saisit un bibelot, l'examina machinalement, puis reprit sa promenade. Enfin, se plantant devant eux, il demanda « Mademoiselle est-elle ici ?»«
Oui, dans le jardin, avec les enfants. »«
Monsieur le baron, l'entretien que nous allons avoir étant définitif, je voudrais que mademoiselle demain y assista. »«
Est-ce que, décidément... »«
Ayez un peu de patience, monsieur. » La vérité sortira clairement des faits que je vais exposer devant vous avec le plus de précision possible.
Soit. Suzanne, veux-tu...
Madame d'Imbleval se leva et revint presque aussitôt accompagnée d'Alice demain.
Mademoiselle, un peu plus pâle que de coutume, resta debout, appuyée contre une table et sans même demander la raison pour laquelle on l'avait appelée. Sholmès ne parut pas la voir, et se tournant brusquement vers M. d'Imbleval, il articula d'un ton qui n'admettait pas de réplique.
« Après plusieurs jours d'enquête, monsieur, et bien que certains événements aient modifié un instant ma manière de voir, je vous répéterai ce que je vous ai dit dès la première heure. La lampe juive a été volée par quelqu'un qui habite cet hôtel. »
« Le nom du coupable ?»«
Je le connais. »«
Les preuves ?»«
Celles que j'ai suffiront à le confondre. »«
Il ne suffit pas qu'il soit confondu. Il faut encore qu'il nous restitue... »«
La lampe juive. Elle est en ma possession. »«
Le collier d'opale ? La tabatière ?»«
Le collier d'opale, la tabatière, bref, tout ce qui vous fut dérobé la seconde fois est en ma possession. »
Sholmès aimait ses coups de théâtre et cette manière un peu sèche d'annoncer ses victoires. De fait, le baron et sa femme semblaient stupéfaits et le considéraient avec une curiosité silencieuse qui était la meilleure des louanges. Il reprit ensuite par le menu le récit de ce qu'il avait fait durant ces 3 jours. Il dit la découverte de l'album, écrivit sur une feuille de papier la phrase formée par les lettres découpées, puis raconta l'expédition de Bresson au bord de la Seine et le suicide de l'aventurier, et enfin la lutte que lui, Sholmès, venait de soutenir contre Lupin, le naufrage de la barque et la disparition de Lupin. Quand il eut terminé, le baron dit à voix basse
« Et il ne vous reste plus qu'à nous révéler le nom du coupable. Qui donc accusez-vous ? »
J'accuse la personne qui a découpé les lettres de cet alphabet et communiqué au moyen de ces lettres avec Arsène Lupin.
Comment savez-vous que le correspondant de cette personne est Arsène Lupin ?
Par Lupin lui-même.
Il tendit un bout de papier mouillé et froissé. C'était la page que Lupin avait arrachée de son carnet dans la barque et sur laquelle il avait inscrit la phrase.
« Et remarquez, nota Sholmès avec satisfaction, que rien ne l'obligeait à me donner cette feuille, et par conséquent à se faire connaître. Simple gaminerie de sa part, et qui m'a renseigné. »«
Qui vous a renseigné ?» dit le baron. « Je ne vois rien, cependant. »
Sholmès repassa au crayon les lettres
et les chiffres. CDEHNOPRZEO-237.
Eh bien, fit monsieur d'Imbleval, c'est la formule que vous venez de nous montrer vous-même.
Non. Si vous aviez tourné et retourné cette formule dans tous les sens, vous auriez vu du premier coup d'œil, comme je l'ai vu, qu'elle n'est pas semblable à la première.
Et en quoi donc?
Elle comprend deux lettres de plus, un E et un O.
En effet, je n'avais pas observé.
Rapprochez ces deux lettres du C et du H, qui nous restaient en dehors du mot « répondez ». Et vous constaterez que le seul mot possible est « écho ».
Ce qui signifie?
Ce qui signifie « l'écho de France », le journal de Lupin, son organe officiel, celui auquel il réserve ses communiqués. Répondez à l'écho de France. Rubrique de la petite correspondance numéro 237. C'était là le mot de l'énigme que j'ai tant cherché et que Lupin m'a fourni avec tant de bonne grâce. J'arrive des bureaux de l'Écho de France.
Et vous avez trouvé?
J'ai trouvé toute l'histoire détaillée des relations d'Arsène Lupin et de sa complice. Et Sholmès étala 7 journaux ouverts à la 4e page et dont il détacha les 7 lignes suivantes. Premièrement, ars.lup.dameimple protect 540. Deuxièmement, 540. Attends explication. Point. AL. Troisièmement, AL sous domine. Point ennemi. Point perdu. Quatrièmement, 540. Écrivez adresse, point, ferez enquête, point. Cinquièmement, AL, Murillo, point. Sixièmement, 540, parc 3 heures, point, violette, point. Septièmement, 237, entendu Sam, point, serait Dim, point, Matt, point, parc.
Et vous appelez cela une histoire détaillée?
S'écria monsieur d'Imbleval. Mon Dieu, oui. Et pour peu que vous y prêtiez attention, vous serez de mon avis. Tout d'abord, une dame qui signe 540 implore la protection d'Arsène Lupin. À quoi? Lupin riposte par une demande d'explication. La dame répond qu'elle est sous la domination d'un ennemi. De pression, sans aucun doute, et qu'elle est perdue si l'on ne vient à son aide. Lupin, qui se méfie, qui n'ose encore s'aboucher avec cet inconnu, exige l'adresse et propose une enquête. La dame hésite pendant 4 jours. Consultez les dates. Enfin, pressée par les événements, influencée par les menaces de Bresson, elle donne le nom de sa roue, Murillo. Le lendemain, Arsène Lupin annonce qu'il sera dans le parc Monceau à 3 heures et prie son inconnu de porter un bouquet de violettes comme signe de ralliement. Là, une interruption de 8 jours dans la correspondance. Arsène Lupin et la dame n'ont pas besoin de s'écrire par la voix du journal. Ils se voient ou s'écrivent directement. Le plan est ourdi. Pour satisfaire aux exigences de Bresson, la dame enlèvera la lampe juive. Reste à fixer le jour. La dame qui, par prudence, correspond à l'aide de mots découpés et collés, se décide pour le samedi et ajoute « Répondez, écho 237 ». Lupin répond que c'est entendu et qu'il sera en août le dimanche matin dans le parc. Le dimanche matin, le vol avait lieu.